Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonjour ou bonsoir, vous écoutez Campus Grenoble 90.8, vous nous écoutez en direct et en replay sur le site de la radio campusgrenoble.org, sur votre tablette, votre smartphone, votre ordinateur, que sais-je encore. Vous écoutez l'apérophonie, l'émission des bénévoles du collectif de la radio où chacun vient traiter un sujet qui l'intéresse. Et ce soir, on va parler du forum de l'événement qui se tiendra lundi, le 9 décembre à 18h30 au CTM de Mellon et dont le sujet est les États-Unis après la réélection de Donald Trump. Et pour en traiter, eh bien, j'ai trois invités exceptionnels dans les studios de la radio, les deux intervenants et le modérateur de ce forum. Bonjour messieurs.
Bonjour monsieur.
Alors je vais vous demander de vous présenter l'un après l'autre. On va commencer par Pierre, la cheville ouvrière du forum de l'événement.
Eh bien Pierre Bréchon, donc je suis professeur émérite de sciences politiques, c'est-à-dire retraité. Et j'essaie de continuer à être actif, donc j'ai été professeur de sciences politiques à Sciences Po Grenoble.
Oui, vous avez même dirigé l'Institut d'études politiques de Grenoble.
J'ai même dirigé, oui. Quelques années, il y a déjà 20 ans.
C'était la bonne époque. Ensuite, on va demander à l'Américain de service de se présenter. Bonjour.
Ah, nous sommes deux Américains de service,
en fait. Vous êtes tous les deux Américains, d'accord.
Mais moi, je m'appelle James Anderson, je suis professeur d'anglais et d'études américaines à Sciences Po Grenoble. Je suis d'origine américaine, donc de l'État du Massachusetts.
Ouh.
Mais ça fait quand même longtemps que j'habite en France, donc je suis ravi d'être là avec vous.
Un descendant des pères fondateurs.
Je ne m'en vanterai pas.
Et ensuite.
Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Roy Carpenter. Je suis maître de conférence à l'UFR Socle. Et je suis historien spécialiste en histoire coloniale de l'Amérique au XVIIIe siècle et en institution politique américaine.
Très bien. Alors, Monsieur Bréchon, je vais vous demander d'expliquer le principe du forum de l'événement qui a lieu 5 fois dans l'année.
C'est ça. Donc, c'est on existe depuis 35 ans à peu près. Et donc, l'idée, c'est bien d'un forum. Donc, ce n'est pas une conférence. C'est sur des sujets d'actualité, forum de l'événement. Et donc, c'est organisé de manière assez stable, avec deux intervenants à qui on ne demande pas une conférence, mais à qui on demande simplement des interventions courtes pour dire les points essentiels du sujet sur 3 sous-thèmes, parce qu'on a un thème central et 3 sous-thèmes. Mmh. Donc chaque intervenant parle 5 minutes sur chacune de ces interventions. Et puis ensuite, on a 20 minutes d'échange avec les gens présents. Et puis ensuite, on passe au deuxième question, et ainsi de suite. Et on garde le dernier quart d'heure pour choisir avec les personnes présentes le sujet de la fois suivante. Et donc, je peux déjà le dire, le forum qui suivra sera le 3 février de l'année prochaine.
En 2025. Et donc, voilà. Ce sera une discussion enfiévrée entre les différents participants du forum pour déterminer quel sera le sujet qui sera traité la prochaine fois. Justement, il paraissait assez évident qu'en 2024, qui a été une année avec force élections à travers la planète, que le sujet qui émergerait pour cette session qui se tiendra lundi 9 décembre, ce serait quand même les États-Unis et les élections américaines. Mais comment s'est fait la discussion à la fin de du précédent forum ?
Oui, c'est effectivement, il n'y avait pas tellement photo sur le choix du thème. à ce moment-là. On avait déjà hésité en septembre, au moment de choisir le thème d'octobre. Le premier forum de l'année, c'est l'équipe de préparation qui le choisit. Et on s'était dit, ça serait peut-être pas mal de le traiter la deuxième fois. Donc ça a été proposé dans les thèmes, dans les 6 ou 7 thèmes qui sont sortis en octobre au moment du choix. Et comme d'habitude, on a voté sur ça. Au premier tour de l'élection, on a 2 voix. Donc chacun a 2 voix et on garde les deux thèmes arrivés en tête pour un choix décisif. Voilà, il faut bien une méthode de vote.
C'est uninominal à 2 tours.
Voilà, c'est quelque chose comme ça.
Je suppose qu'il n'y a pas eu besoin de faire le recompte des voix, il était assez
évident. Non,
c'est arrivé en tête.
Oui. C'était une très large majorité. C'était pas comme aux élections législatives françaises.
Voilà, c'était plus comme aux élections de cette année aux États-Unis. Donc, il y a ce thème-là, les États-Unis après la réélection de Donald Trump, et donc les 2 intervenants qui sont juste à côté de vous vont traiter les 3 questions suivantes. Comment expliquer le résultat des votes ? Quelles conséquences sur la politique nationale américaine et quel impact sur la politique étrangère, notamment pour l'Ukraine, l'Europe, l'OTAN et le Moyen-Orient ? Moi, en fait, c'est la première fois que j'ai... On a déjà traité du forum de l'événement plusieurs fois, M. Bréchon et moi. Et là, c'est la première fois que j'ai les intervenants autour du micro. Comment sont déterminées les trois questions qui vont être abordées ?
Alors, les 3 questions qui vont être abordées, c'est l'équipe de préparation qui se réunit 2 jours après, en visioconférence, 2 jours après le forum pour les décider. Et donc, entre le lundi soir et le mercredi soir où on décide, on fait un peu de... on se rafraîchit notre mémoire ou on complète nos informations pour essayer de voir au fond qu'est-ce qu'on veut traiter. Et là on n'avait pas envie de se limiter à l'élection elle-même. On ne voulait pas se limiter à de la sociologie électorale. Mmh. Donc, on a fait une question sur la sociologie électorale, la première que vous avez citée. Et comment ? Puis ensuite, on a, pour les 2 autres questions, au fond, ça a été simple. On a partagé selon politique intérieure et politique extérieure, quelles conséquences de cette élection américaine et de l'élection donc de Donald Trump pour l'avenir.
Très bien. Et ensuite, vous avez envoyé ces 3 questions aux 2 futurs intervenants.
Voilà, c'est ça.
Alors, autour de la table, si j'ai bien compris, il y en a un des 2 qui a déjà participé à un forum de l'événement en tant qu'intervenant.
Oui, j'ai participé 2 fois, je pense. Je me souviens, une fois surtout, c'était l'élection d'Obama. Un moment historique.
Ben oui.
Voilà, donc un peu comme un moment historique cette année avec l'élection de Trump. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure.
Et Roy, ce sera votre première fois.
C'est la première fois, oui.
Et on vous a expliqué quand même comment ça allait se passer ?
Non, pas trop. J'ai reçu le flyer avec les 3 questions et voilà. Je me prépare un petit peu par rapport à ça.
Justement, comment on se prépare ? Parce qu'en fait, il faut arriver à dire des choses très intéressantes dans un temps extrêmement réduit, puisque vous n'avez que 5 minutes d'intervention pour chaque question. Et ensuite, c'est un échange avec les gens qui assisteront au forum. Comment on arrive à faire un texte où on dit beaucoup de choses en peu de temps ?
À mon souvenir, la dernière fois, l'idée, c'est de en fait, donner quelques teasers au public, c'est-à-dire dire plus deux ou trois choses assez intéressantes et assez surprenantes pour un public français, peut-être. Et ça suscite pas mal de questions, en fait. Donc, du coup, la présentation étant courte, les questions sont plus longues.
Ouais.
Ce qui est vraiment agréable parce que c'est un échange avec le public.
D'accord. C'est vrai qu'en plus, pour les citoyens français qui ont l'habitude d'un type d'élection assez organisé et très monolithique, avec d'où ma blague sur une uninominale à 2 tours, tout à fait, il est toujours compliqué de faire comprendre aux Français qu'il y a un système de grands électeurs pour chaque État, que winner take all, que le gagnant prend toutes les voix. à part dans deux États, si je me rappelle bien.
C'est bien ça, oui.
Et qu'en plus, on ne vote pas que pour les présidentielles aux États-Unis le mardi en question, mais qu'il y a le shérif du comté parfois, etc., etc., les juges. Donc, il y a tout le système électoral est beaucoup plus complexe que celui qu'on a en France.
Je dirais qu'il faudrait presque être diplômé pour lire un bulletin de vote américain.
Oui, c'est ça, ouais.
C'est assez compliqué. Il y a pas mal de choses. Donc, président, gouverneur, représentant, sénateur, shérif, etc., etc.
Référendum.
Oui, voilà. C'est vrai, il y a des référendums d'initiative populaire.
Alors moi, j'ai voté sur place pour la première fois cette année. Et je dois dire que je l'ai trouvé très sympathique. Les gens qui organisent tout ça, il y a une ambiance géniale avec plein de questions différentes, ça se discute. Et c'était, j'avais oublié ça. C'est une autre ambiance que ce qu'on trouve en France. Pas que c'est pas sympathique en France, mais là-bas, c'est un peu plus détenu.
Disons qu'en France, on n'a qu'un choix à faire.
Il n'y a qu'une seule question à répondre.
On glisse un papier dans l'enveloppe et on a fini. Mm-hmm. Ouais. C'est très simple. Aux États-Unis, c'est quand même assez compliqué.
Oui, on nous demande de décider sur plusieurs choses à la fois. Moi, j'étais à New York, il y avait un amendement de la Constitution de l'État qui concernait l'avortement, justement. Et, donc, il y avait tout un texte à lire avant de se prononcer.
Oui, c'est ça. En plus, il faut expliquer aux Français qui ont du mal à le comprendre, c'est un État fédéral. Donc, en fait, chaque État est un vrai État, en fait.
Chaque État est une réplique de l'État fédéral, en fait. C'est ça. Avec un gouverneur qui est comme le président de l'État, avec des chambres.
Une chambre.
Deux chambres.
Deux chambres, oui.
Dans la plupart des États, il y a deux chambres. Et des procureurs, des attorney general, comme on dit, donc les gardes des Sceaux dans chaque État, etc. Donc, C'est un peu, j'essaie de dire à mes étudiants qu'il faut imaginer, enfin, qui ont du mal à comprendre, pardon, pourquoi on a ce système électoral des grands électeurs pour le président. Et c'est un peu comme si chaque État était un pays en Europe qui décide, voilà, de choisir un des candidats pour être président.
Tout à fait. Et c'est comme si toutes les élections françaises se tenaient le même jour.
Exactement.
Voilà, les municipales, les législatives, la présidentielle, etc., etc. C'est comme si tout était regroupé le même jour et qu'en plus, il y avait donc des questions, des référendums d'initiative populaire sur lesquels on pouvait voter. Parce qu'évidemment, quand on n'a jamais vu un bulletin de vote américain, nous en France, on arrive, il y a un nom et puis on le met dans l'enveloppe et c'est fini. Mais là, il y a plein de choses. C'est très long, en fait. Il y a beaucoup de trucs à remplir, hein, ce qui explique aussi que les gens y passent plus de temps que dans les bureaux de vote français et que donc ça recrée un moment où les gens se parlent, se rencontrent, se croisent, parce que en général, quand on va voter, on reste, y en a au moins pour 20 minutes ou quasiment.
Alors, beaucoup plus que ça, je pense.
Non, mais je parle pas du temps pour faire la queue.
Oui, non, il y a tout un tableau, en fait.
Oui.
Et donc, on parle de, par exemple, de voter sur la même ligne, ce qui veut dire, bon, je vais voter uniquement pour tous les démocrates, tous les républicains, etc. Mais étonnamment, en fait, les gens, ils mélangent plus qu'on
croit. Oui.
Ouais. Et donc,
Un mot pour ça en anglais, c'est « split the ticket ». Ça veut dire qu'on prend son bulletin de vote et on décide de voter, comme l'a dit Roy, parfois pour un démocrate et parfois pour un républicain. Donc des gens souvent votent, surtout pour les élections plutôt locales, pour une personnalité qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance.
C'est ça. Surtout dans les petites communautés. Après, pour les grosses villes, il y a des campagnes un peu massives. Mais quand on vote, moi je viens d'un petit village de Haute-Savoie et quand je vais voter pour les élections municipales, enfin tout le monde connaît le maire, quoi, forcément. Donc effectivement, c'est pas le même rapport. Mais vous, aux États-Unis, il y a plusieurs échelles qui s'empilent les unes sur les autres. Il y a toutes les strates de l'administration locale, fédérale, de l'État qui sont empilées, d'où une analyse des résultats qui est plus complexe, évidemment.
Oui. Et donc d'où au fait aussi la lenteur des fois pour compter les votes. D'autant plus qu'il y a pas mal de gens qui votent par courrier aussi.
Oui, puis en plus cette année, il y a eu beaucoup de gens qui ont voté par anticipation, si j'ai bien, j'ai bien saisi. Ce qui a un peu fluidifié dans certains endroits où ça faisait moins, il y a eu moins d'attentes que ce qui était anticipé.
Un petit exemple, il y a eu l'annonce aujourd'hui du dernier membre de la Chambre des représentants qui a été choisi en Californie. c'est un démocrate qui a renversé un républicain, je ne me souviens pas de son nom, mais il a gagné de 200 votes. Donc du coup, il a fallu sans doute compter plusieurs fois.
Ouais, oui, forcément. Donc j'imagine que déjà, rien que ça, on a dépassé les 5 minutes sur la première question, forcément. Et effectivement, je peux comprendre que pour des gens qui ne sont pas extrêmement spécialistes des élections américaines, ça déclenche beaucoup de questions, vu qu'on a la chance d'en avoir deux sous la main, qui peuvent les expliquer clairement. Donc c'est toujours plus complexe qu'on le fait en France quand on vote. Et ensuite, après, sur les perspectives plus de projection sur le... Parce qu'en fait, il faut aussi expliquer qu'il y a une période de transition qui ne s'organise pas de la même façon qu'on le fait en France. Là, il y a une espèce de gouvernement, entre guillemets, qui prépare la période de transition avant l'arrivée du nouveau président. Oui.
Oui, il y a une période de transition qui dure jusqu'au 21 janvier, c'est ça, 21 janvier, je crois. C'est le 20 ou le 21 janvier, mm-hmm. Donc le nouveau président va rentrer en fonction. Et pendant tout ce temps-là, il y a tout un système de transition qui consiste à mettre en place la nouvelle équipe, de donner les informations nécessaires aux gens qui vont prendre les nouveaux rôles et tout ça. On a vu dernièrement Trump a nominé pas mal des membres de son cabinet, ce qu'on appelle son cabinet. Mm-hmm. Mais tout ça, tous ces membres doivent être
approuvés
par le Sénat. Et le nouveau Sénat ne rentrera en fonction qu'au début de l'année prochaine. Donc du coup, Trump, il aimerait se passer de cette ratification par le Sénat, mais... Ça dépendra si les républicains ont de la sphère ou pas, parce que les républicains ont la majorité au Sénat. Et là, il va y avoir un bras de fer à l'intérieur du Parti républicain, parce que Trump, bon, c'est quelqu'un qui voudrait imposer son point de vue sur tout, imposer son équipe sur tout. Et il y a certains républicains qui ne vont pas vouloir se laisser faire. Donc ça sera intéressant de voir à quel point... Le Trump et le Sénat seront
en phase
ou pas.
Oui, d'autant que ce qui est intéressant dans l'intitulé du forum qui se tiendra donc lundi 9 décembre au CTM de Mellan à 18h30, c'est les États-Unis après la réélection de Donald Trump. Et il est important de rappeler que ce sera son dernier mandat, il ne pourra pas en avoir un autre ensuite.
En principe, oui.
Oui, si tout se passe bien. Et on espère que tout se passera bien. Puisqu'en fait, les présidents, désormais, ne peuvent avoir que deux mandats, de suite ou pas, mais que deux.
Oui, c'est la deuxième fois que ça arrive dans l'histoire américaine.
Oui, c'est assez rare, en fait.
Enfin, excuse-moi, c'est la deuxième fois qu'il y a deux mandats séparés, non consécutifs. Oui. Oui.
Et donc, en fait, le fait que Donald Trump... normalement ne puisse pas briguer encore un autre mandat, signifie qu'à l'intérieur du Parti républicain, il y a des gens qui vont vouloir prendre sa suite. Et donc ça va peut-être créer des dissensions plus que ça ne l'avait été lors de son premier mandat.
Oui, en principe, ça donne un peu de liberté aux membres du Parti républicain. Et puis il y a d'autres, par exemple, qui ne vont pas se présenter non plus eux-mêmes. Donc en principe, il y a des éléments qui pourraient être plus libres. Mais bon... On verra parce qu'on est vraiment dans la spéculation et l'expérience nous montre que Trump, il a la capacité de nous surprendre quand même.
Oui, beaucoup.
C'est difficile à dire.
Mais ce qui est intéressant, en fait, que MAGA, ce qu'on appelle MAGA, Make America Great Again, c'est un mouvement plutôt qu'un parti.
Oui.
Et c'est un mouvement qui a pris le contrôle d'un parti par le biais de Trump. Donc Trump, en fait, il a fait...
Une
OPA, oui, voilà, sur le Parti républicain il y a longtemps maintenant, en 2015, en 2016. Et on se demande souvent dans les éditoriaux, dans les journaux, etc., quel sera l'avenir de MAGA après Trump. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui saura reprendre ce mouvement et en faire quelque chose? Parce que Trump, c'est quelqu'un qui est tellement hors norme. On n'a pas eu d'autres... on a eu peu de figures politiques comme Trump dans l'histoire américaine.
Mm-hmm. Oui, en plus, on utilise le mot mouvement, mais il n'y a pas de vraie idéologie. C'est tout centré sur
lui.
Un homme. et on connaît à peine son avis sur de maintes questions politiques. Donc ça, et si on connaît son avis, ça ne suffit pas non plus parce que ça peut changer d'un moment à l'autre. Donc la question de ce qui va se passer après est vraiment une question ouverte.
Ne serait-ce que le choix de son vice-président pour cette élection Puisqu'il y a 4 ans, ils étaient très opposés l'un à l'autre. Et finalement, c'est lui qui est sur le ticket pour être le vice-président. On rappelle que le vice-président devient le président en cas de d'incapacité ou de décès du président. Et que Donald Trump n'est plus tout jeune. Et on a vu le précédent Biden. Donc on peut se dire que l'avenir n'est pas écrit non plus. Et que donc son vice-président peut être une personne à suivre de près.
De très près, d'autant plus que je pense qu'il est plus idéologue que Trump.
Oui, carrément.
Il a plus de...
Fondement.
Trump, c'est quelqu'un qui réagit, comme l'a dit Roy, il réagit à la situation. Il va changer d'avis. Par exemple, il y a quelques années, c'était vraiment la campagne contre l'avortement qui était importante pour lui, parce qu'il savait que c'était comme ça qu'il pouvait se faire élire. Surtout en nommant des juges à la Cour suprême. Mais maintenant que l'avortement est devenu un peu un sujet moins important, bah, il abandonne, il va se saisir d'autres sujets qui seront, par exemple, cette année, il s'est beaucoup concentré sur les jeunes hommes. Il a voulu attirer les votes des jeunes hommes. Donc, il a paru à l'émission de radio de Joe Rogan, ce qui a eu 40 millions de vues, je crois, sur YouTube. Donc, en fait, il va, en fonction de ses besoins politiques, il va changer d'avis assez facilement, quoi.
Moi, je me souviens toujours du cas de sa visite en Pologne la première fois. Parce qu'il était contre l'OTAN, il avait menacé de se retirer de l'OTAN. Il est rentré dans une pièce tout seul avec le président Andrzej Duda. Et il est sorti en disant « J'avais dit que l'OTAN était obsolète, eh bien, c'est plus obsolète à partir de maintenant. » Donc ça, on appelle le principe de « the last person in the room ». C'est-à-dire la dernière personne qui est tout seul avec lui... va l'influencer. Et donc voilà, il faut se débrouiller pour être la dernière personne. Et on attend que tous les autres sortent. On donne son avis et voilà, c'est ça qui colle.
C'est ce qu'on disait du grand conseil du fascisme. C'est le dernier qui parle qui a raison.
Ouais. Ou bien la dernière émission de télévision qu'il a vue au milieu de la nuit. Parce que c'est un nocturne dans le Trump en plus.
Et c'est surtout un gros téléphage.
Oui, énorme.
Il lit pas beaucoup, on dira.
Non.
Son ministre de la Défense, enfin celui qui l'a marié de ministre de la Défense, il a choisi à la télé.
Super.
C'est un présentateur de Fox. Oui. Et c'est pas le seul.
Est-ce que, justement, puisqu'on est sur le sujet des nominations, est-ce que vous pensez que parmi les gens qu'il a proposés pour les différents postes de la gestion de l'État, il y en a certains qui pourraient lui faire concurrence, toute proportion gardée? Ou est-ce que c'est vraiment des gens qui vont être là pour dire « oui, chef, bien, chef » ?
À mon avis, ils sont là, c'est la deuxième réponse. Enfin, il les a choisis exprès cette fois. Je crois que la première fois...
Il y avait des contradicteurs, des gens avec une forte personnalité. Ça a été assez compliqué deux premières années.
Il a pioché parmi un réseau de personnes qui étaient déjà un peu rodées, « experts », entre guillemets, des gens connus de l'établissement. Et il a appris que ça marchait pas parce que
que ça marchait pas avec lui.
On n'obéissait pas comme il voulait, et donc maintenant il a choisi exprès des gens qui sont beaucoup plus obéissants. Enfin, c'est ça le.
On peut tout de même imaginer les conflits, notamment. Je pense, je ne sais pas combien de temps durera l'amitié entre Donald Trump et Elon Musk, par exemple. Elon Musk, c'est quelqu'un qui a dépensé 200 millions de dollars. Pour l'élection de Donald Trump, qui va être chargé d'une nouvelle mission, ce qui est découpé dans les dépenses de l'État. Mais c'est aussi quelqu'un qui, évidemment, a grand intérêt à influencer Donald Trump pour son business, pour SpaceX, pour Tesla, etc. Et dès lors qu'il ne va pas avoir gain de cause, je peux imaginer qu'il y aura un divorce, peut-être pas à l'amiable entre eux.
Oui, d'autant que Elon Musk, lui, a des affaires et des entreprises et des usines réparties sur plusieurs continents. et qu'on a bien compris avec Make America Great Again que Donald Trump, ses visées principales sont de la politique intérieure et notamment au niveau économique. Donc il pourrait y avoir un conflit qui se crée entre Musk et Trump sur justement Elon Musk a comme visé les marchés chinois et indiens pour ses voitures notamment. Et donc peut-être que ça va devenir assez vite une source de conflit entre les deux.
Ça pourrait l'être, oui. Ça pourrait l'être. Et aussi une source de conflit d'égout.
Oui, ah bah ça. Ouais, franchement, le rapprochement entre les deux, c'est vraiment la chose qui m'a le plus surpris, parce que c'est effectivement deux personnalités qui ont du mal à passer les portes tellement ils ont un égo surdimensionné. Et en matière d'égo surdimensionné, j'en connais un rayon. Et j'arrivais pas à comprendre comment ils pouvaient arriver à s'entendre, en fait. Après, je vois bien que, effectivement, si on peut avoir un petit peu d'impact sur le président des États-Unis, quand on a quelques business en route, ça peut être très intéressant pour les affaires. Mais avec les personnalités extrêmement fortes qu'ils ont et les réactions qu'ils déclenchent chez les gens, qu'ils arrivent à se reprocher tous les deux, ça me paraissait surprenant. Mais bon, finalement, jusqu'à présent, ils ont arrivé à se contenir.
Bah, je pense que l'argent y est pour beaucoup.
Oui.
Oui, je crois qu'il y a une convergence d'intérêts pour l'instant.
Oui, pour l'instant, oui.
On verra si ça.
Combien de temps?
Parce que Musk, il faut rappeler, il était parmi ce milieu Silicon Valley en Californie. Il a toujours voté à gauche. Enfin, c'est ce qu'il disait.
Oui.
Donc c'est vrai que c'est un changement un peu étonnant. Mais bon, est-ce que ça va durer?
Bah, Musk a complètement renié la Californie. Il déménage toutes ses entreprises au Texas. Yes. Il ne jure que par le Texas maintenant. Et donc, il dit que la Californie, bah, si les États-Unis deviennent comme la Californie, c'est la fin du pays. Parce que c'est trop à gauche, c'est trop woke, c'est trop politiquement correct. Et Musk, il aborde ça. Et comme Trump, d'ailleurs. Donc, du coup, c'est là où ils se sont retrouvés aussi. C'est dans cette haine pour le politiquement correct.
D'ailleurs, ce n'est pas le seul à déménager vers le Texas depuis la Californie. Il y a quand même un mouvement assez important de population dans cette direction-là.
Oui, bah le Texas, la Californie est devenue très très chère.
Oui.
Et pour les entreprises et pour les employés des entreprises. Et puis donc le Texas, c'est moins cher. C'est très ouvert sur le plan de l'ouverture des entreprises et tout ça. C'est très business friendly, comme on dit en anglais.
Ouais.
Bah, la Californie, elle est devenue un peu moins, je pense. Donc il y a...
Mais en fait,
c'est pas que vers la Californie, vers le Texas que les Californiens bougent. C'est aussi vers d'autres États comme l'Idaho ou le Utah ou d'autres États, Nevada, etc.
Oui, le Nevada, c'est étonnant quand même.
Ah, c'est juste à côté.
Oui, je sais, oui, la proximité géographique. Mais enfin bon, c'est quand même un endroit où il y a eu des essais nucléaires. Ça fait modérément envie quand même, malgré tout.
Oui, mais ce qu'il faut savoir, qu'il y a beaucoup de Californiens, même si la Californie est démocrate en ce moment, la Californie dans le passé était très républicain.
Oui.
Il faut se souvenir de Schwarzenegger qui était républicain, Ronald Reagan était républicain, Richard Nixon de Californie républicain.
Il reste des comtés en Californie qui votent très fortement républicain.
Ah, absolument, absolument. Pas les comtés sur la côte, plutôt à l'intérieur. Mais qui sont très, très conservateurs, oui.
Ouais. Et j'ai oublié le nom de Denver. Dans le Colorado aussi, a l'air d'avoir une petite hype.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Ce qui est bon. C'est, en fait, il y a aussi, il faut rappeler que ce sont des vrais États, comme la France, l'Italie, etc. Et donc, de la même façon qu'on s'aide l'Europe, il y a une concurrence un peu économique entre les différents États pour attirer des entreprises, offrir des avantages fiscaux, proposer des endroits pour accueillir des gens à fort revenu et à haut bagage culturel, etc., etc.
Tout à fait, tout à fait. C'est un peu la course entre les États pour attirer les grandes entreprises. Et donc, une des très grandes entreprises importantes aux États-Unis maintenant, c'est Tesla. Donc, du coup, il peut y avoir de la concurrence. D'ailleurs, je crois que c'est dans le Nevada qu'il a construit son Gigafactory. C'est pas en Californie.
Oui. Donc, un peu comme l'avait fait l'Irlande il y a presque deux décennies pour accueillir beaucoup de grandes entreprises américaines, justement, pour qu'elles aient leur siège social pour l'Europe. Il y a différentes politiques... entre les différents États américains pour accueillir le plus facilement possible certaines entreprises.
Oui. D'ailleurs, pour revenir à cette question, ça va être assez intéressant de voir comment Trump va traiter le sujet des entreprises d'énergie qui se sont créées depuis l'avènement de Biden à la présidence, notamment parce qu'il y a eu cette loi IRA, Inflation Reduction Act, qui est une loi de New Deal, Green New Deal, le New Deal vert. Uh-huh. Et beaucoup des États qui en ont profité sont des États rouges, c'est-à-dire des États conservateurs, des États républicains, notamment dans le sud des États-Unis. Géorgie en a profité beaucoup. Et beaucoup de sénateurs et de représentants républicains étaient contre cette loi, ont voté contre cette loi. Mais depuis qu'elle est passée, ils viennent à Washington pour chercher des deniers pour leur État. Et pour leur électorat.
Oui, ironiquement, ils vont profiter en fait de la politique
qu'ils ne voulaient pas.
Voilà, exactement. Oui.
Donc, est-ce qu'ils vont vouloir renverser cette politique? Parce que une des missions d'Elon Musk avec Vivek Ramaswamy, donc un autre ex-prétendant à l'investiture républicaine et un autre richissime individu américain, ce sera de couper dans les dépenses de l'État. Et il faut savoir que le budget fédéral américain, c'est à peu près 7 000 milliards de dollars par an. Et ils veulent, enfin, Musk a lancé le chiffre de couper 2 000 milliards de dollars, donc plus d'un quart du budget total de l'État. Ouais. Et pour faire ça, il va devoir couper dans beaucoup des programmes dont bénéficient les gens qui ont élu Trump. Donc ça, Trump, comme l'a dit Roy tout à l'heure, c'est la dernière personne qui lui parle et qui lui donne une idée. Donc on va lui donner l'idée de couper beaucoup dans les dépenses. Puis quand il va voir ce que ça va faire et les dégâts que ça va engendrer chez ses électeurs, il va peut-être être un peu moins enclin à le faire.
Oui, c'est tellement gigantesque que c'est difficile vraiment à imaginer.
Oui.
Parce que déjà, il y a ce qu'on appelle les dépenses obligatoires, qu'on ne peut pas
réduire.
La retraite, etc. Il y a la défense, il ne va pas toucher trop à la défense, je pense. Quand on ajoute tout ça, il reste à peu près 20%, qui correspond à peu près aux 2 000 milliards qu'il veut couper. Donc ça veut dire tout ce qui est discretionary, on va éliminer complètement.
Oui.
C'est presque inimaginable. Donc je ne sais pas comment il va procéder. À mon avis, il va tout simplement ne pas le faire. Et puis faire semblant qu'il avait fait comme avant.
Oui,
c'est voilà. Un peu comme le mur.
Avec le Mexique.
On a déclaré qu'on allait le faire, etc. On n'a pas fait. Puis après, on déclare qu'on l'a fait quand même. Donc, je ne vois pas d'autre solution.
Moi non plus. Mais
oui,
parce qu'en
fait, ces aides fédérales, en fait, ça enclenche des emplois. Les emplois sont des électeurs, etc., etc.
Oui, et puis les entreprises investissent et puis engagent des fonds, font de nouveaux partenariats, de nouvelles chaînes d'approvisionnement, etc. Et dire à une entreprise qui vient d'investir des milliards ou dans une nouvelle usine, par exemple en Géorgie, qu'il n'y aura plus de fonds et c'est fini, ça ne va pas. Ça n'ira pas.
C'est vrai que ça pose beaucoup de questions déjà sur le niveau national, cette réélection de Donald Trump, mais il y a aussi comment va-t-il se positionner par rapport au reste du monde. Et effectivement, la troisième question du forum qui se tiendra donc lundi 9 décembre au CTM de Mélan à 18h30 va être, je pense, va pas mal déclencher de questions à votre endroit. J'espère que vous en avez conscience.
Mais là, on est encore une fois, on est vraiment dans la spéculation. On peut pas savoir. Mais ce qui m'étonne à l'heure actuelle, c'est le presque la naïveté, je trouve, des acteurs à l'étranger. Ils ont une sorte d'optimisme par rapport à Trump que je trouve très intéressant, mais ça me fascine presque. Moi, j'ai écouté un entretien avec l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, c'était sur le sujet de l'Ukraine. Alors, pour moi, il y a beaucoup de choses qu'on peut questionner, mais sur l'Ukraine, il était très solide pour moi.
Oui, mais... le Royaume-Uni avait une position très claire.
Oui, tout à fait. Alors, en revanche, il est incroyablement optimiste par rapport à Trump, Boris Johnson. Et on retrouve la même chose chez le Kaja Kallas, qui était l'ancien premier ministre de l'Estonie. La même chose, ils ont une façon de dire que, enfin, je ne sais pas, par exemple, par rapport à l'Ukraine, c'est Trump qui a donné les Javelin missiles, c'est Trump qui a imposé les sanctions contre la Russie, donc on peut peut-être espérer que, etc. etc. Mais pour ma part, je trouve ça très bizarrement optimiste, mais je crois qu'ils n'ont ils ont pas le choix. Ils doivent...
Mais de toute façon, maintenant, il va falloir faire avec.
C'est ça. Oui, oui.
Oui, l'attitude de Trump envers toutes ces questions internationales est très imprévisible, comme l'a dit Roy, et on ne peut pas vraiment savoir ce qu'il va faire. On peut savoir qu'il n'est pas le seul président à s'être plaint que les Européens, par exemple, ne dépensent pas assez pour leur propre défense.
Ouais.
Ça remonte même à Eisenhower dans les années 50. Mm-hmm. Ils étaient frustrés par les Européens et leur manque d'investissement dans l'armement. Obama, il en a beaucoup parlé. Mm-hmm. Il a dit bien aux Européens, écoutez, on va nous retourner un peu plus nos efforts vers l'Asie, parce que c'est la partie, c'est la Chine qui monte et qui va être notre prochain adversaire majeur. Donc ça voudra dire qu'il faudra que vous vous investissiez un peu plus vous-même. Donc on ne peut pas... cet optimisme un peu béat de certains Européens, je suis d'accord avec Roy, c'est très étonnant, étant donné que ça fait quand même des décennies maintenant
qu'on prévient
et qu'on dit on ne sera pas toujours là. Et d'ailleurs, c'est un peu normal pour un électeur américain normal. Il va se dire, mais l'Europe, c'est riche, j'y vais en vacances, ils vivent bien, ils ont 5-6 semaines de vacances par an, ils ont la santé pour tous, ils ont de belles routes, ils conduisent de belles voitures, ils vivent bien.
Un peu petites, mais des belles voitures quand même.
Oui, mais pourquoi ils ne peuvent pas dépenser un peu plus pour leur propre défense? Pourquoi c'est à nous de payer tellement cher notre assurance maladie, de payer cher l'éducation de nos enfants, etc., et qu'eux, ils bénéficient de ce qu'on appelle la dividende de la paix. Donc Trump, là il n'est pas très différent de d'autres présidents, il le dit juste plus haut et plus fort. Est-ce qu'il le fera? J'en sais rien. Il ne sait pas lui-même.
Alors, il y a John Bolton qui était l'ancien conseiller de sécurité. Il est convaincu, il pense que Trump, au moins il a sincèrement l'intention de se retirer de l'OTAN. Mm. Bon, ça va peut-être défendre du président Duda qui va être la dernière personne dans la salle avec lui, mais selon Bolton qui est quand même, il a une vision très sobre, il pense qu'il a sincèrement l'intention de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir le faire, mais au moins, il est... Et encore une fois, comme pour toutes ces questions, cette fois, il est averti. Trump, la première fois, on voyait bien qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne comprenait pas les mécanismes de l'État, les enjeux, mais surtout la façon de procéder. Il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Cette fois, il a déjà l'expérience et il a eu 4 ans pour réfléchir et pour assembler une équipe de gens qui le soutenaient.
Bon, il y a eu une loi qui a été votée il n'y a pas longtemps qui rend plus difficile de quitter l'OTAN. Donc, il peut ne pas quitter l'OTAN, mais effectivement... enlever les troupes, par exemple en Europe, il peut réduire la présence de l'armée de l'air, de l'armée de terre en Europe, il peut les envoyer ailleurs, par exemple, donc il n'est pas obligé de quitter l'OTAN pour faire du mal.
Tout à fait. Et peut-être, d'ailleurs, c'est une des choses qui est différente cette fois-ci par rapport à sa première élection. Dans la première élection, on avait un peu l'impression qu'il arrivait sans vraiment une équipe constituée autour de lui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a sans doute pioché beaucoup dans les cadres du Parti républicain pour constituer son premier gouvernement à l'époque. Et qu'entre-temps, il y a des gens tout autour de lui qui ont développé des théories, des axes de réflexion et des propositions, et qui est plus important maintenant, au moment de sa réélection, que ça ne l'était sur son premier mandat. Et peut-être qu'eux, ils ont réfléchi à des choses qui vont lui faire lui suggérer.
Bah, certains, oui. D'autres n'auront pas réfléchi parce qu'ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient être nommés.
Ouais.
Par exemple, le présentateur de Fox News qui est préconisé pour le
ministère de la Défense,
c'est quelqu'un qui n'a aucune expérience. Je ne sais pas comment on peut imaginer qu'il peut gérer un département de la Défense avec un budget annuel de 800 milliards de dollars, avec des millions d'employés,
oui.
Présents sur tous les continents, avec beaucoup de femmes qui sont militaires aussi, alors que lui, il est accusé de s'être mal comporté, très mal comporté, voire avoir agressé des femmes dans le passé. Je ne sais pas comment lui il peut avoir quelque idée de que ce soit de ce qu'il fera.
Oui, surtout, il est contre les rôles des femmes, des femmes dans les rôles de combat. Bon, ce qui était déjà un projet qui s'est développé depuis, je ne sais pas, 20 ans. Maintenant,
oui.
Il ne va pas pouvoir le défaire.
Revenir dessus, oui. Il y a beaucoup de femmes dans l'armée active aux États-Unis.
Non, c'est là où on doit espérer que le Sénat, qui a quand même élu comme président quelqu'un qui n'était pas un
soutien de Trump.
Un soutien de Trump.
Un républicain qui n'est pas un soutien de Trump.
Ah ouais, il en existe plein.
Il y en a plein. Ouais. En fait, c'est aussi, je pense, une des choses qu'il faudra expliquer lundi lors du forum, c'est qu'au sein du Parti républicain, il y a des voix discordantes, en fait.
Bah, Trump ne se serait pas fait élire sans les votes de beaucoup de gens qui avaient voté Obama avant, d'ex-démocrates. C'est un peu comme en France, hein, avec la montée de l'extrême droite. Il y a pas mal de gens qui ont sauté de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et on voit la même chose aux États-Unis. Pas tellement peut-être de l'extrême gauche américaine à l'extrême droite, enfin au Parti républicain. Mais la victoire de Trump est aussi due à ses électeurs qui, comme par le passé sous Reagan, par exemple, ont parlé de Reagan Democrats. Des gens qui étaient démocrates de tradition, qui ont voté Reagan pour des raisons diverses et variées, et notamment le patriotisme et tout ça. Et la même chose avec Trump. Il a attiré, par exemple, il a gagné deux fois le mur bleu. Donc deux fois, il a gagné les États de Pennsylvanie, Wisconsin et Michigan, qui sont des États qui, normalement, votent démocrate. La seule fois où il n'a pas gagné ces États, c'était
en
2020.
Ah oui,
il n'a pas gagné ses états en 2020, mais bon, il aurait peut-être gagné en 2020 s'il n'avait pas eu le Covid. Donc on peut se dire que Trump, il a su attirer des électeurs qui normalement votent démocrate.
Oui, des gens qui ne votent pas pour le Parti républicain, mais au sein du Parti républicain, il y a des gens qui ne sont pas en accord avec lui et certains ont des rôles importants.
Oui, déjà, ce qu'on appelle les Never Trumpers.
En fait, c'est aussi une des choses qui est intéressante dans le fonctionnement des partis politiques américains. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une tendance majoritaire, il y a des voix discordantes et certains des minoritaires peuvent avoir des postes assez importants qui influent quand même sur la politique de l'ensemble.
Tout à fait. Il reste au Sénat surtout pas mal de républicains qui sont un peu plus traditionnels, comme John Thune, qui sera le président du Sénat, qui sont des gens qui sont plus... pour le commerce international, pour la présence américaine dans le monde, pour les idées traditionnellement plus républicaines. Donc, et lui, il a été élu président du Sénat. Donc, on verra s'il s'écrase devant Trump ou s'il sait monter son propre petit mur de résistance.
Parce qu'il faut dire que jusqu'ici, ce qui est étonnant, c'est le manque de résistance quand même. C'est vrai qu'il y a toujours des gens qui sont contre Trump dans le Parti républicain, mais c'est quand même étonnant de voir le contrôle qu'exerce Trump sur le Parti républicain.
Oui, et ce sont les vieux dinosaures qui ont résisté, comme John McCain quand il a résisté.
C'est ça. Oui.
C'était son vote qui a empêché Trump de renverser l'Obamacare. Donc c'était un homme qui a fait ça. Et donc il a été vilipendé par Trump et les gens du mouvement MAGA. Et ça va être la même chose avec les gens qui essaient de résister à Trump maintenant. Est-ce qu'ils tiendront ou pas, je ne sais pas.
On va voir. Il y aura deux années clés jusqu'au midterms. Parce que, en fait, il va falloir qu'il fasse beaucoup de choses en très peu de temps. Parce qu'après les élections de mi-mandat, tout le monde saura que de toute façon, il ne reste plus que deux ans. Et là, ça va réorienter fortement les perspectives. Bien, comme on le voit, il y a beaucoup de questions qui sont en suspens par rapport au sujet de ce forum de l'événement qui se tiendra donc lundi 9 décembre. Le sujet, c'est donc les États-Unis après la réélection de Donald Trump. Ça se tient... Oh oui.
Je voulais juste préciser qu'on peut aussi suivre le forum en distanciel. C'est très simple, il suffit de regarder sur le site internet du CTM du Centre théologique de Milan pour trouver la connexion.
Et de toute façon, pour le podcast de cette émission, vous aurez le lien directement. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus, ça vous amènera sur le site du CTM de Milan. Et comme ça, vous pourrez, si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre à Milan, donc ce lundi 9 décembre à 18h30, vous pourrez y assister depuis chez vous ou le regarder après. L'avantage de le regarder en direct, c'est qu'on peut participer aussi aux questions. J'ai le modérateur juste en face de moi, il va approuver. Oui,
oui, tout à fait. On aime bien qu'il y ait beaucoup de monde dans la salle.
Oui, c'est évident, mais parfois les horaires de travail ou l'endroit où on vit ne permet pas d'y assister. Et ensuite, on peut revoir le forum si on ne peut pas y assister en direct. Messieurs, merci d'être venus.
Merci beaucoup. Merci.
Je vais vous laisser phosphorer pour cette fin de semaine et ce week-end avant d'être... face à vos questionneurs. On rappelle que la présence est libre et gratuite, bien entendu, qu'on peut participer aux frais, mais qu'on peut venir juste assister. Ça se passera donc ce lundi 9 décembre à 18h30 au Centre théologique de Milan. Si vous n'y êtes jamais allé, en plus c'est un très bel endroit, un peu bucolique avec un très joli parc. Et que c'est extrêmement facile d'y accéder par les transports en commun. Donc on n'a même pas besoin de prendre sa voiture, ce qui à Grenoble est toujours un avantage. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.